semaine 43. Salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, sommaire de la revue de presse.
Quelques jolis articles.
Gommette.
Tu es sûr que c'est Gommette?
Oui, il y a une petite apostrophe à la fin. G-O-M-E-T. Voilà.
Très bien, très bien.
Atelier, plateforme, usage, la stratégie Open Data de Christophe Hugon pour Marseille. Un article de Léna Cardo.
Donc, c'est une interview de Christophe Hugon, un conseiller municipal à Marseille. Et ça parle de transparence, Open Data, un peu de logiciel libre et April même. On aime bien. Allez, jetez un œil, hein, Marseille, c'est plutôt intéressant.
Silicon Open Source, les 5 engagements de la Commission européenne. Un article d'Ariane Becky.
Une superbe idée, la Commission européenne avance sur les sujets qu'on aime, qu'on adore. Il y a de super trucs qui s'ouvrent en ce moment. On en avait parlé dans le passé, des appels à aller creuser sur les bugs des logiciels pour essayer d'aider à les rendre plus solides. Eh bien là, il y a des engagements, donc on va, je pense, en reparler dans les semaines qui viennent parce qu'il y a pas mal de choses qui se décantent autour de ça.
Clubic, Google en justice, Mozilla ne veut pas être un dommage collatéral d'une éventuelle sanction. Un article de Guillaume Belfiore.
La sanction, c'est quoi? C'est quoi?
Eh bien, c'est la menace de se faire exploser par une procédure antitrust.
Anti-monopole, voilà. Anti-position voilà. Dominante, enfin, ouais, il y a plein de termes.
Que Microsoft avait échappé à ça il y a 10-20 ans.
De justice.
Et voilà. Et maintenant, c'est Google qui est en quasi-monopole sur les moteurs de recherche, qui est dans la ligne de mire.
Et ça peut poser problème à Mozilla parce que...
Ils sont dépendants à l'argent de Google, oui. Le Monde.fr, la justice américaine ouvre une procédure contre Google pour abus de position dominante.
Et ben voilà.
Et ben il aurait fallu le mettre avant. Développé.com, le Conseil d'État autorise Microsoft à héberger les données de santé des Français. Un article de Stéphane Lecalme, consternation.
Il n'y a aucun souci, on peut faire héberger les données de santé par Microsoft aux États-Unis. Et en plus de ça, les raisons qu'ils ont données pour cela sont très bonnes et bien solides. Hein. On s'attendait forcément à des trucs brillants.
Oui, en gros, c'est on n'a aucune preuve que le gouvernement américain va demander à Microsoft de faire fuiter les données.
Et que Microsoft ne va pas résister à cette demande. Après tout, c'est... Peut-être que c'est dans la loi américaine, non?
Oui, puis c'est pas comme si on avait fait sauter le Privacy Shield récemment en mode on n'a plus trop confiance dans nos bons alliés. Donc, décision du Conseil d'État assez incompréhensible.
Dépitante, ça pue. Ouais. Non, puis en plus de ça, ils disent, il n'y a pas de souci, les données vont être anonymisées, il n'y a aucun risque, ne vous inquiétez pas. C'est pas comme s'il y avait la NSA avec des équipes de mathématiciens qui sont capables d'enlever cette anonymisation facilement.
Et non, il n'y a même pas anonymement, voilà, c'est des stats, c'est beaucoup, beaucoup d'informations qui peuvent être intéressantes d'un point de vue industriel, commercial. On rappelle que.
Stratégique, hein.
Voilà, la NSA, sa première activité, c'est pas de combattre le terrorisme, c'est de faire de l'espionnage industriel.
C'est toi qui le dis.
Oui. Manifestement.
Alors, c'est quoi le sujet cette semaine?
Alors, c'est compliqué.
Comment ça, c'est compliqué? T'as pas de sujet?
Si, c'est compliqué.
Oui, mais voilà. T'as pas compris?
Si, j'ai compris. Alors, l'idée, c'était de parler de la complexification de l'informatique. Je suis tombé sur un petit article qui expliquait, voilà, une étude en disant qu'aujourd'hui, les développeurs doivent travailler sur des projets beaucoup plus complexes qu'avant. Alors déjà, parce qu'il y a beaucoup plus de lignes de code, et voilà, ça s'est beaucoup enrichi. Et souvent avec plusieurs technos, sur plusieurs plateformes, notamment s'ils travaillent sur du mobile ou des choses comme ça. Et que les informaticiens d'aujourd'hui sont bien plus mis à l'épreuve et ont beaucoup plus de choses à gérer que les informaticiens du passé.
Et je peux que aller dans ce sens-là, parce qu'effectivement, avec le temps, je constate, on doit maîtriser, et j'essaye de maîtriser, de plus en plus de technologies. C'est un panel de choses à connaître et à comprendre, d'outils, de logiciels, de techniques, qui ne fait qu'évoluer. Et quand il y a une évolution de ce type-là, c'est souvent une évolution par l'addition. On additionne des nouvelles technologies, des nouveaux outils, et il faut les maîtriser à un moment donné. Et moi, j'ai 20 ans d'expérience derrière moi. Hein. C'est mon boulot à temps plein.
Espèce de vieux con.
Exactement. Là, je peux le réclamer. 20 ans, c'est de l'expertise. Ben, je constate que je continue à rajouter des techniques sur les anciennes et je ne perds pas complètement de vue ce que j'ai déjà appris dans le passé. Ça se complexifie dans ce sens-là.
Oui, et puis il y a aussi le fait que l'informatique fait des trucs de plus en plus compliqués. On additionne petit à petit. Aujourd'hui, si on sort un logiciel qui ressemble à ce qui se faisait il y a 20 ans, tout le monde rigole et personne ne l'utilise. Et de fait, bah, on a des outils, puis on se dit, bah, tiens, on va remettre de l'argent pour refaire quelque chose, mais on veut gérer plus de choses, on veut faire communiquer des systèmes différents, on veut gérer des volumes de données de plus en plus importants. Et c'est assez naturel, puisque bah, on construit sur les fondations de ce qu'on a déjà. Donc forcément, on va dans un mouvement de plus en plus de complexité. Alors, avant, c'était mieux.
Alors avant, tu penses à quoi? Les années 80, les années 60, les années 40, où il fallait utiliser des machines physiques et les bugs, c'était des insectes qui se promenaient derrière les diodes ou les lampes à incandescence.
Voilà. Alors moi, je sais pas, mais jusqu'où faut remonter?
Il y avait des cartes perforées.
Donc c'était peut-être pas plus simple, mais le code était beaucoup plus facile.
Il était plus court.
Ouais, voilà. J'avais un collègue qui était assez âgé, hein. Il travaillait encore à 65 ans. il y a quelques années de ça. Et il m'expliquait que quand lui avait étudié l'informatique, il était jeune étudiant, et en fait, il n'y avait qu'un seul ordinateur dans l'école, et eux écrivaient leur code sur du papier, le donnaient à la secrétaire de leur école, qui tapait le soir les codes dans l'ordinateur, et qui le lendemain leur ressortait des sorties papier en disant « voilà ce que ça a donné ». Donc on imagine le chemin parcouru, et à l'époque, effectivement, voilà, le code n'était pas important. On cite par exemple le code de la mission Apollo sur le peu d'informatique qui était embarqué. C'est aujourd'hui ridicule, c'est la moindre... calculette embarque plus.
Oui, ce qui est assez sidérant, et je sais que les gars même de l'époque, quand ils se replongent sur ça, ils ont refait des simulations, des outils qui permettent de faire tourner ce code, bah, ils se rendent compte que c'était d'une simplicité énorme parce que c'était tout petit. Et c'était nécessairement petit parce qu'il n'y avait pas beaucoup de stockage possible. Et même dans les années 80, on disait, voilà, on n'aura jamais besoin d'une taille énorme, je ne sais plus ce que c'était, mais de 600 kilo-octets. Au-delà, ça ne servira à rien parce que de toute façon, on peut tout faire dans ce genre de taille. Mmh.
Alors, on a encore aujourd'hui des systèmes qui sont assez anciens, notamment dans l'aviation, on en parlait la semaine dernière, notamment du Boeing 737 MAX. Et une des difficultés qu'ils ont avec cet avion-là, c'est que les calculateurs embarqués sont des très vieux machins qui ont,
dizaines d'années probablement.
Quelques dizaines d'années, et qui du coup, on leur demande tellement de trucs et plein de trucs nouveaux, ils sont ras la gueule.
Et c'est les mêmes problématiques d'ailleurs dans l'espace, hein, parce que dans l'espace, on peut envoyer que du matériel qui est solide face aux radiations, et donc on ne prend pas des matériels hyper récents.
Et qui consomment très peu en plus.
Et qui consomment, voilà, et qui doit être fiable. Donc il y a tellement de requis qu'on utilise souvent des vieux microprocesseurs. Je sais que les 486 ont tourné pendant longtemps dans l'espace.
Alors il y a une unité de mesure de la complexification, ça s'appelle le DOOM, tu connais ?
Le quoi ? Non ?
Oui, alors en fait, c'est pas une vraie unité de mesure, mais assez souvent, on voit des gens qui font des tests. Il y a quelques années, on avait dit la taille d'une page web moyenne est supérieure à Doom, c'est au code du jeu Doom qui était le premier jeu en 3D.
Duke Nukem 3D.
Doom, c'était le Doom, c'était le
nom du jeu.
Nom du jeu. Pour la petite anecdote, n'était pas vraiment un jeu 3D, même si la représentation était 3D. En fait, ça gérait la 2D.
Donc en gros, il fallait tuer des monstres et des nazis. Non, il y avait peut-être des nazis, c'était celui-là.
Non, c'est des monstres.
C'est des monstres, hein. Voilà. D'accord.
C'est déjà pas mal. Et donc du coup, on avait dit, bah voilà, ce jeu qui avait été un grand succès sur lequel on a passé. Les gens ont passé des heures, hein, dont je fais partie.
J'ai dû y jouer aussi, mais ça date trop, j'ai oublié.
Voilà, oui, t'assumes pas. Donc ce jeu, aujourd'hui, une page moyenne sur Internet est plus lourde que ce jeu qui a occupé des gens et sur lequel on a bossé, etc. etc. Et récemment, il y a eu un autre exemple où des gens ont réussi à faire tourner Doom, donc c'est pour ça que c'est l'unité de mesure, sur un test de grossesse.
Un test de quoi ? Le petit bâton qu'on doit mettre sous l'urine pour vérifier ?
Dans lequel il y a une petite puce, je ne sais pas comment ça marche, mais il y a un petit peu d'électronique embarquée et les gens se sont mis dessus, ont dit « est-ce qu'on peut faire tourner Doom ?» et puis un petit écran minuscule. Et du coup, ils ont réussi à faire tourner Doom dessus.
Waouh, on fait vraiment n'importe quoi avec notre temps aujourd'hui.
Voilà, mais ce qui démontre qu'aujourd'hui, on a évidemment une puissance de calcul très importante, mais voilà, la taille des logiciels a explosé. Et je me souviens, par exemple, au début des années 2000, il y a toute la question de la gestion des bugs. C'est-à-dire qu'avant, quand les logiciels étaient plus petits, on était dans un mode de développement plutôt artisanal. Il y a eu un moment
largement
monde informatique où il a fallu mettre en place des outils et des méthodes pour gérer les bugs. C'est-à-dire qu'avant... Bah, on dit « Ah, il y a un bug, ça marche pas, les tests étaient relativement à faire parce qu'il y avait relativement peu de fonctionnalités. » Et puis, les gens connaissaient leur code, et puis quand il y a quelque chose qui plantait, hop, ils retrouvaient. Et avec des logiciels de plus en plus complexes, cette question de la quantité de bugs, un, on est sûr qu'il va y en avoir, il y en aura toujours, et deux, la quantité de bugs fait qu'on ne pouvait plus le gérer en disant « Je note ça dans un coin, puis je vais regarder, en fait. »
Alors, un, non, il n'y a pas toujours des bugs. Moi, dans mes logiciels, il n'y a pas de bugs. Et je te demanderai de le prouver s'il y en a et de les reproduire devant moi.
Ah, d'accord, parce que c'est comme les données de la sécurité sociale chez Microsoft. Il faut pouvoir prouver que ça peut se passer.
Voilà, c'est ça. Non, mais effectivement, les bugs, il y en a toujours. Hein, et on se rend compte, bah, ils ont développé des forges et des outils et des méthodologies qui permettent de prendre en compte eh bien, des méthodes de travail qui permettent d'évoluer avec la taille des logiciels. Alors, souvent, on partait sur des gros logiciels et des grosses équipes, sur des cycles en V, c'est comme ça qu'on disait. Mais effectivement, il y a eu beaucoup d'évolutions sur ça et on a fait changer les choses pour faciliter la vie. Hein.
Alors, le cycle en V, hein, rien à voir avec le col en V du pull, c'est un système d'organisation et de conduite de projet issu de l'industrie où on va avoir une phase descendante, entre guillemets, où on va tout spécifier, mettre sur le papier en disant « je veux ceci, je veux cela ».
Et en allant général au détail. Hein.
C'est ça, et en rentrant dans le détail, en faisant des plan de gestion des risques, en disant qu'est-ce qui peut mal se passer, etc., etc. Et une fois qu'on a tout bien écrit, c'est la phase montante où on réalise. Donc c'est un cycle qui a du sens quand on est dans le domaine de la construction, de l'industrie, etc. Parce qu'au moment où on a commencé à couler le béton, si on fait un bâtiment par exemple, c'est un peu tard pour dire « Ah ouais, non, mais en fait, je voulais mettre un escalier là. »
Alors, en informatique, c'est même pire, je trouve, c'est que souvent, on code en bas du V. Et donc, le reste, c'est les tests, l'intégration, la documentation qui est souvent mise après. Et ça, c'était un système qui était affreux parce que bah, on se rendait compte, on rentrait dans des tunnels de travail pendant un an ou deux. Et puis, au bout de deux ans, on sortait avec un produit que personne n'attendait. Puis on avait oublié exactement ce qu'on avait demandé au départ.
Archétype de ce genre de projet lourdingue qui va dans le mur, c'est Louvois qu'on aime bien critiquer.
Ah oh ouais, non, ça, voilà. Ça fait toujours plaisir parce que c'est un gros projet de l'État français qui était pour gérer les payes. Hein.
Oui, la paye des militaires.
Et donc un sujet qui quand même apparaît assez cadré, assez solide, parce qu'on maîtrise normalement.
Normalement oui, mais très compliqué parce que les militaires, ils se promènent à droite à gauche, ils partent en opération, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Et donc du coup, à chaque fois, il y a des primes et des systèmes de... Voilà, deux paiements qui sont différents, et c'est un gros merdier administratif.
Et le logiciel Louvois, alors, qu'est-ce qu'il a donné une fois qu'il a été développé ?
Eh bien, c'était une catastrophe, tout a été jeté. Ça a coûté vraiment très 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 cher, hein. Ça se compte, je crois, en centaines de millions d'euros. Et le pire est qu'au départ du projet, il y a eu un audit et qui a dit « ça ne marchera pas ». Et en fait, personne n'a pris les décisions de ne pas y aller, ça a été développé, il y a des fortunes qui ont été déversées là-dedans d'argent public. Les militaires n'ont pas été payés, trop payés, etc. C'était un merdier.
Oui, je crois même qu'ils ont repassé au papier pour certains, oui, parce qu'ils voulaient être sûrs de les payer.
Voilà,
hein,
et ils n'en pouvaient plus, et tout ça pour toucher à la poubelle. Et des projets de ce type-là, il y en a eu d'autres.
Ah, il y en a plein. On sait qu'en Grande-Bretagne, ils ont eu des problèmes avec des projets qui tournent autour de la sécurité sociale. Et puis, il y a sûrement plein de choses dont, bah, qu'on oublie, hein, et qu'on va se dépêcher d'oublier.
Voilà, donc trop compliqué. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un seuil au-delà duquel on n'arrive plus à rien? Parce qu'en plus de ça, bon, c'est trop compliqué pour le faire. Et en plus, les gens, ça devient chiant. C'est-à-dire que c'est tellement lourdingue, il faut rentrer dans le détail, que ça devient difficile de motiver des gens pour bosser là-dessus, parce que bah, c'est juste pas fun, quoi.
Et effectivement, on se rend compte qu'on arrive à des limites. Alors, heureusement, il y a des évolutions et il y a des innovations, bah, notamment sur les méthodologies. Tu parlais du cyclon V tout à l'heure, bah, on a inventé des nouvelles choses, et qui sont largement portées par le logiciel libre et puis Internet en général. Il y en a une dont on aime parler régulièrement.
La méthode agile.
Voilà, et alors c'est pas Gilles Verviche ou un autre, c'est une méthode qui recommande l'agilité, donc effectivement on est orienté sur peu de procédures, des petites équipes, une responsabilité individuelle qui est mise en avant, et puis il y a quelques caractéristiques qui peuvent se décliner, parce que la méthode agile c'est quelque chose de très général et très générique, ensuite on le décline et il y a plein de manières de le mettre en place, et puis un des avantages de ça, bah, c'est qu'on a beaucoup simplifié la manière de travailler. Déjà, on ne travaille plus dans ce système de tunnel où on donne des spécifications générales, détaillées, ensuite on implémente, puis finalement on teste et on met en place. Non, 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 on met en place le plus vite possible, parfois en quelques jours ou quelques semaines. Ça peut aller très, très vite.
Il y a également, au niveau de la technique, de l'informatique, il y a aussi des choses qui simplifient le boulot avec les frameworks, notamment.
Alors, par exemple, hein, c'est-à-dire c'est de l'outillage. En gros, un framework, ça va être un échafaudage qui va nous mettre en place des mécanisme tout de suite, de base. Et puis, il y a aussi...
Des modules, voilà.
Ah oui, en veux-tu, en voilà, là, il y a de quoi faire. Et puis, il y a aussi une évolution. Alors, je ne sais plus comment on dit ça, mais il y a du code qui est de bas niveau. Et on va monter en niveau dans le code et dans les langages.
Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de dire à la machine, alors tu vas gérer la mémoire comme ça, là, tu vas faire ceci, là, tu vas faire cela. C'est des choses qui vont être prises en charge par du code déjà existant et on va se concentrer sur un niveau plus près de la fonctionnalité.
Exactement. Et ça, cette façon de voir les outils, de les appréhender, c'est une évolution qui est assez considérable. En gros, on ne travaille plus avec des petits Lego, on travaille avec des plus grosses briques qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite et de ne pas avoir à se soucier des détails. Et c'est souvent dans les détails, parce qu'on a fait plein de lignes de code notamment, qu'on va introduire plein de bugs, plein de problèmes. Et effectivement, aujourd'hui, avec la méthode à l'agile et en se concentrant sur des petits projets qui en rassemblent d'autres, eh bien, on peut faire des projets qui sont sans bug, quasiment.
Voilà, on rappelle que la Cour des comptes avait audité, en gros, l'informatique de l'État. Et avait dit, faites de l'agile, faites des petites équipes, réintégrer des compétences au sein de l'État, parce qu'ils avaient tendance à dire, et c'est typique du cycle en V, de dire, bon, on spécifie, on n'a pas besoin de connaître, et puis on demande à des gens de faire. Ben, en fait, quand on veut bien faire, il faut connaître. Et faites des petits projets qui sont agiles, qui vont vite, qui permettent
en
de gagner.
En râteau, voilà. Avec peu de chefs, avec oui. Peu d'administration.
Et sans essayer de faire un énorme paquebot, et à la fin, on arrivera peut-être justement à faire que tous ces systèmes se parlent et à faire quelque chose qui fonctionne mieux.
Alors moi, j'ai un exemple d'un truc qui marche largement comme ça, c'est le noyau Linux, qui est développé par des milliers de personnes dans le monde entier, des experts, et qui arrive, bon an, mal an, bah, à le faire évoluer. Hein. On l'a aujourd'hui dans nos poches sous la forme d'Android.
Voilà, et plein de grosses entreprises aussi, hein, qui sont normalement concurrentes et qui arrivent à contribuer ensemble au noyau, en dépit de la complexité du projet. Donc du coup, l'informatique, ça reste toujours un truc intéressant, malgré la lourdeur et la complexité.
Mais non, parce que ça se simplifie en permanence, on a de nouvelles manières de l'accaparer. Et moi, j'adore justement faire évoluer ma manière de travailler, bah, pour me simplifier la vie. Hein. C'est un peu le but, ça fait 20 ans que je cherche à simplifier toujours plus et à toujours moins faire en préparant mieux, en organisant mieux, en ayant plus de capacité avec mes outils.
Voilà, bon, on va simplifier la vie en ne trouvant pas de petites blagues pour la conclusion. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.